Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Les Chebabs somaliens ont tué au moins 10 personnes dans une attaque contre un hôtel de Mogadiscio. Attaque toujours en cours ce matin.
Au Niger, une nouvelle attaque de Boko Haram a fait des morts et des blessés dans la région de Diffa, a révélé hier la presse.
Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité s'est rendu hier sur les lieux d'une attaque de djihadistes qui a coûté la vie à 3 policiers près de la frontière malienne.
En Mauritanie, 8 morts et une vingtaine de blessés hier à Nouakchott dans une bousculade survenue pendant une distribution d'aumônes.
Les forces irakiennes soutenues par les États-Unis se heurtaient hier à la résistance de centaines de djihadistes du groupe État islamique à Fallujah.
Nous reviendrons aussi sur la mort de l'abbé Apollinaire Malou Malou, l'ex-président de la CENI congolaise qui a organisé les premières élections démocratiques en RDC. Et ne manquez pas la Minute Écho ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Au moins 10 personnes, dont 2 députés, ont été tuées dans une attaque visant un hôtel de Mogadiscio, attaque revendiquée par les islamistes somaliens Chebab. Les combats étaient toujours en cours ce matin entre les forces somaliennes et des assaillants retranchés dans le bâtiment. Jean-Roger Bion.
Cet attentat a été mené quelques heures après l'annonce par les autorités somaliennes de la mort du cerveau présumé de l'attaque perpétrée par les Chebab contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya qui avait fait 148 morts en 2015, dont 142 étudiants. Il aurait été tué par des forces spéciales dans le sud-ouest du pays dans la nuit de mardi à mercredi. L'attaque contre l'hôtel Ambassador avait débuté mercredi vers 17h40, heure locale, avec la puissante explosion d'une voiture piégée, ont affirmé à l'AFP des sources sécuritaires. Au moins 2 assaillants avaient ensuite pénétré dans l'hôtel, tandis qu'un autre avait péri à l'extérieur du bâtiment, ont indiqué des sources concordantes.
Au Niger, les médias et une source sécuritaire ont annoncé hier qu'au moins 9 civils ont été tués et 13 autres blessés mardi dans une attaque de Boko Haram contre le village de Yébi dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays. Le 19 mai, 6 civils avaient été tués à Yébi, dont 2 par balle, 4 brûlés vifs, et 7 autres personnes ont été blessées dans un raid des insurgés islamistes, selon l'armée du Niger.
Revenons maintenant sur l'attaque survenue dans la nuit de mardi à mercredi au Burkina Faso. Des assaillants encore non identifiés ont attaqué le poste de police d'Atagom, village burkinabé situé à environ 5 km de la frontière avec le Mali. Le bilan fait état de 3 policiers tués et de dégâts matériels importants. Accompagné du chef d'état-major général des armées et du directeur général de la police, le ministre de la Sécurité s'est rendu sur les lieux hier, compte rendu de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Depuis la semaine passée, la rumeur a couru sur une éventuelle attaque terroriste visant le commissariat central de Ouagadougou. On y voyait des éléments de sécurité lourdement armés. Contre toute attente, la menace s'est déportée au nord Burkina, à Ntagom, village situé à quelques kilomètres seulement de la frontière du Mali. Suivant le constat fait sur place par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré.
Nous avons vu de façon très cruelle, et nous avons vu le sang. Je dis encore que c'est triste parce que c'est 3 jeunes. Nous avons vu les corps, et c'est vraiment affreux, c'est très vilain et c'est difficile à soutenir.
Pour l'attaque du commissariat de police de Koutoukou le mois passé, les assaillants étaient venus en voiture. Cette fois-ci, ils ont changé de moyen de locomotion. Suivons ce qu'en dit le ministre Simon Compaoré.
Les forces de défense et de sécurité qui sont arrivées dans la zone se sont dirigées un peu vers la frontière et ils ont vu des traces. Ils évaluent à peu près 5 motos. Une moto prend au maximum 2. On peut dire qu'il devait être au moins 5 à 10 éléments et qui ont dû laisser les motos à cet endroit et progresser à pied pour attaquer.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger. C'est un défi politico-sécuritaire pour le président Muhammadu Buhari qui effectue ce jeudi sa première visite dans la région. Alors, qui sont ces nouveaux rebelles? Élément de réponse avec Tatiana Mosso.
Les vengeurs du delta du Niger se décrivent eux-mêmes comme jeunes et d'un bon niveau d'éducation. Compte tenu de la complexité de leurs attaques sur les infrastructures pétrolières, il serait fort probable que certains de leurs membres soient des ex-combattants issus d'anciens groupes armés. Ils ont des plongeurs professionnels, donc un certain niveau de compétences et de connaissances dans le secteur pétrolier. Toutefois, l'organisation hiérarchique du groupe est moins connue, à l'exception d'un noyau dur composé de 100 à 150 personnes. Tout comme les anciens groupes rebelles, les NDA réclament une meilleure répartition des revenus pétroliers, une amnistie financière, le nettoyage du désastre écologique dans le delta et des compensations pour les populations. Ils défendent également des idées séparatistes comme la création d'un État indépendant dans le sud-est du Nigeria. En 2009, le Nigeria avait signé un cessez-le-feu avec le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, le MEND, et avait mis en place un programme d'amnistie, de compensation financière et de formation professionnelle. Mais depuis la chute du baril du pétrole et la crise financière qu'elle a engendrée pour un des plus importants producteurs d'or noir du continent, le pouvoir peine à trouver de l'argent pour financer cet accord.
Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a commencé hier une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Les deux pays se disputent une zone pétrolière offshore. Claire Moragibourg.
John Dramani Mahama, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, respectivement deuxième et troisième économies d'Afrique de l'Ouest, ont un litige sur le tracé de leurs frontières maritimes. Plusieurs compagnies pétrolières ont annoncé ces dernières années d'importantes découvertes dans cette zone litigieuse. L'affaire a été portée par Abidjan devant le Tribunal international du droit de la mer, qui a ordonné l'année dernière à Accra de limiter son activité pétrolière dans la zone disputée en attendant la décision finale prévue en 2017. Un mois plus tard, les deux présidents s'étaient rencontrés, à la surprise générale, le 12 mai 2015 à Genève, grâce à la médiation du Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. À l'époque, il n'y a pas eu d'avancée notable.
En Mauritanie, 8 personnes sont mortes et une vingtaine blessées hier à Nouakchott dans une bousculade survenue pendant une distribution d'aumônes. Eric Manirakiza.
Les personnes décédées sont pour l'essentiel des femmes âgées et pauvres. Leurs corps ont été transportés à l'hôpital principal de Nouakchott avec une vingtaine de blessés. La bousculade est survenue au centre de la capitale mauritanienne dans une cour clôturée appartenant à un particulier dont le nom n'est pas révélé. Des centaines de personnes sont pressées pour recevoir la zakat, l'aumône légale en islam, distribuée par un homme d'affaires. Les récipiendaires de cette aide étaient surtout des nécessiteux venus des zones pauvres de Nouakchott. Des civils chargés de la sécurité durant la distribution ont été surpris par un mouvement de foule qu'ils n'ont pas pu contenir. Ce drame intervient à quelques jours du début du Ramadan, le mois de jeûne des musulmans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes soutenues par l'allié américain se heurtaient jeudi à la résistance de centaines de djihadistes du groupe État islamique à Fallujah, où selon l'ONU, 20 000 enfants risquent un recrutement forcé. Dans la Syrie voisine, plus de 40 civils ont été tués dans le nord du pays par des bombardements aériens, tandis que les djihadistes faisaient face à l'offensive d'une alliance de combattants arabes et kurdes sur deux fronts.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence demain sur la Syrie. C'est pour décider si des largages d'aide humanitaire doivent être effectués après que le régime de Damas a autorisé des convois humanitaires à accéder à deux villes assiégées. Selon l'ONU, 592 000 personnes vivent dans des villes assiégées, principalement par les forces du régime de Damas, et 4 millions sont dans des zones de difficiles d'accès.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours, a fermement condamné mercredi une nouvelle tentative manquée de la Corée du Nord de tirer un missile balistique en violation des résolutions de l'ONU. Le Conseil de sécurité, qui a unanimement adopté une déclaration rédigée par les États-Unis, demande à tous les pays membres d'accroître leurs efforts pour imposer des sanctions à Pyongyang. La Chine, seul allié de Pyongyang, et la Russie ont soutenu cette déclaration.
Ici aux États-Unis, un homme en a abattu un autre avant de se suicider mercredi sur le campus de la célèbre université UCLA de Los Angeles, qui a été bouclée pendant 2 heures. Nouvel exemple de la violence par arme à feu dans ce pays. L'université, qui accueille environ 43 000 étudiants, a été bouclée durant environ 2 heures, de nombreux étudiants étant évacués des bâtiments, les mains en l'air et fouillés par les forces de l'ordre.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
110 millions de dollars, soit environ 65 milliards de francs CFA pour la construction du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio au Sénégal. C'est la firme turque DM Holding qui sera en charge des opérations dont la fin est prévue dans 14 mois. Le marché accueillera 137 magasins de 75 et 150 mètres carrés, des chambres froides destinées aux divers produits agricoles et des boutiques. La gare de 9 hectares dédiée aux camions sera en mesure d'accueillir 180 camions gros porteurs. Selon DM Holding, c'est au total 1 000 000 d'emplois qui sont anticipés. Ce nouveau projet est l'un des chantiers phares du plan Sénégal émergent PSE. Arrivée des OGM au Nigeria. Pratiqué depuis 8 ans au Burkina Faso, le coton Bolgar 2, génétiquement modifié pour résister à certains insectes, vient après le manioc, le sorgho et le niébé transgénique, allonger la liste des OGM nigérians jusque-là limitée à des tests. Au Burkina Faso, l'interprofession cotonnière a décidé d'abandonner le coton Bolgar 2 progressivement en raison des pertes de qualité sur la fibre. La première production de coton OGM nigérian est attendue pour 2018. Une couche supérieure de sécurité pour les transactions de e-commerce faites par téléphone ou par Internet, par exemple. C'est ce qu'offre la solution OT Motion Code, la carte de paiement à cryptogramme dynamique d'Oberture Technology. La firme française a signé un partenariat avec Network International, l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement au Moyen-Orient et en Afrique. Selon la firme, contrairement aux cartes de paiement ordinaires, le code de sécurité à 3 chiffres est remplacé par un mini-écran sur lequel le code change automatiquement, chaque heure par exemple, de sorte qu'en cas de vol, les informations bancaires deviennent inutilisables.
Les sports à présent avec Timothée Donagmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Idrissa.
Série de matchs amicaux sur la planète football.
L'Espagne écrase la Corée du Sud 6-1. Jeu égal, 1 but partout entre la Belgique et la Finlande. Et les Pays-Bas s'imposent 2-1 face à la Pologne.
Suite de la polémique sur la non-sélection de Karim Benzema en France.
Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Karim Benzema a justifié son absence en équipe de France pour l'Euro en lançant une polémique spectaculaire sur des questions qui fracturent la société française bien au-delà du football. C'est ce que déclare l'attaquant du Real dans une interview au journal Marca à 9 jours de l'Euro en France.
Suite du procès de Messi pour fraude fiscale.
2 anciens avocats de l'attaquant star du Barça ont assuré devant le tribunal de Barcelone que l'Argentin, jugé pour fraude fiscale, ne savait rien de la gestion de sa fortune, tout en détaillant les mécanismes qui visaient à réduire ses impôts. Lionel Messi, 28 ans, est poursuivi pour avoir évité le paiement de 4,16 millions d'euros au fisc au titre des bénéfices tirés de ses droits à l'image entre 2007 et 2009. Il n'a pas assisté au procès, mais sera entendu jeudi par le tribunal.
Tennis Roland Garros.
Serena Williams n'a mis que 62 minutes pour se qualifier mercredi pour les quarts de finale de Roland Garros aux dépens de l'Ukrainienne Elina Svitolina, battue en 2-7, 6-1 et 6-1. L'Américaine numéro 1 mondiale affrontera la Kazakh Yulia Putintseva, 60e mondiale, qui n'avait jamais dépassé le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique Andy Murray, lui, s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en battant mercredi le Français Richard Gasquet en 4-7, 5-7, 7-6, 6-0 et 6-2. Murray, deuxième mondial, affrontera le Suisse Stan Wawrinka dans sa 4e demi-finale à Paris après avoir perdu les 3 premières 2011, 2014 et 2015. Le Suisse Stan Wawrinka, lui, s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Espagnol Albert Ramos en 3-7, 6-2, 6-1 et 7-6.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Washington, François Baloumouéné, a confirmé à VOA Afrique le décès mardi soir de l'abbé Apollinaire Malumalu, l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante du Congo, qui était en fait cet homme qui a organisé les premières élections démocratiques au Congo-Kinshasa. Eh bien, Eddy Sango a posé la question au rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
Prêtre de diocèse de Butembo Beni, Malumalu Apollinaire avait 4 dimensions. C'était un homme d'État qui a travaillé dans l'extérieur, dans les armes Léo pour la paix dans ce pays. Un intellectuel confirmé, un formateur parce qu'il a tracé un cursus à suivre pour que celui qui entre la première fois dans le domaine de l'élection puisse en avoir le cœur net. J'ai connu un homme d'État qui part dans la ligne de vous lui poser un problème du travail par message, une heure, 5 minutes, 10, après, il vous donne la suite. J'ai connu celui qui s'est préoccupé et du pays et de son or, grand or natal, et monsieur qui était au four et au moulin pour l'intérêt de ce pays. Je connais Apollinaire, comme un rassembleur.
Vous avez été avec lui avant qu'il ne vienne aux États-Unis pour des soins. Comment avait-il vécu ces temps? On parle d'une maladie.
C'était un monsieur soucié de ce pays. Soucié parce que de son hôpital en Afrique du Sud, il est resté disponible quand l'état de santé lui permettait de résoudre les problèmes qui s'est passé au pays. À 2 ou 3 reprises, il a dit quitter son lit d'hôpital pour venir cheminer avec nous en vue de publier le calendrier le 12 février 2015. C'est quelqu'un qui pouvait s'oublier soi-même pour l'intérêt du pays.
Il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante en 2006, mais en fait, les élections qui ont été contestées avec des affrontements à Kinshasa, même sa personne parfois a mis en cause. Or, comment est-ce qu'il a vécu cela?
Il demanda à quelqu'un de lui prouver que les élections de 2006 étaient mal organisées. Il expliquait les affrontements par d'autres critères et faits. Quand il y a eu les mauvais, les élections de 2011, les gens reconnaissaient que les élections de 2006 étaient bien faites et que il y a eu des troubles pour d'autres raisons.
Sa maladie, en fait, ce que nous apprenons aujourd'hui, semble avoir laissé un trou en RDC, si bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un calendrier électoral encore.
Ce n'est pas seulement en RDC. Les gens liaient le nom de Malumalu à l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, FAEAC. Ils liaient ça au refait que les réseaux du savoir électoral de l'Afrique centrale. Les anglophones de SADC ne te diront pas contrairement parce que j'ai été le représentant au Conseil consultatif électoral en Afrique du Sud récemment. C'est une tête que l'Afrique et le monde a perdu en Jordanie. Tout le monde connaissait qui était Malumalu et quel était son degré de connaissance en matière électorale.
Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante du Congo.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burkina Faso, un poste de police a été pris pour cible mercredi par des hommes inconnus dans l'extrême nord du pays à la frontière avec le Mali. 3 policiers sont morts. Il faut dire que plusieurs attaques ont eu lieu dans cette zone sahélienne ces dernières semaines. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint l'analyste Newton Ahmed Barry.
Un petit village avec un détachement avancé d'un poste de police. Et c'est ce poste de police-là qui est généralement composé de 6 éléments qui a fait l'objet d'attaques. Mais l'attaque ressemble vraisemblablement à ce qui a déjà eu lieu dans la région. Vous vous souvenez de l'attaque en août de Béou, il n'y a pas longtemps, et plus précisément, il y a à peine 2 semaines, dans une localité, une commune rurale beaucoup plus importante que là, qui est donc Koutougou, dans la province du Soum. Mais toujours dans cette bande sahélienne, évidemment, qui fait frontière avec le Mali, il y a évidemment les survivants du Moujaro, ceux qui ont été chassés de Gao au nord du Mali, qui ont replié dans la grande forêt. Parce que contrairement à ce que l'on pense, il y a la forêt, évidemment, du forage piscine, qui est un espace assez couvert dans cette zone sahélienne. Et donc, ils se sont repliés dans cette partie. Le deuxième élément djihadiste qui opère aussi dans cette partie-là, c'est le Front de libération de Matina de Amadou Koufa, qui a donc écume jusqu'à dans la région de Matina, comme son nom l'indique. Et puis récemment est née une sorte de Katiba, dirigée par un Burkinabé, qui est donc l'émir Sabadougou, qui est donc évidemment une sorte de représentation négoïde de Ansar Dine, dirigée par Iyad Ad Agali.
Cet attentat a été revendiqué, hein?
Pour l'instant, à ma connaissance, non.
Alors, au même moment, on parle de l'arrestation de 6 personnes concernant les attentats du 15 janvier à Ouagadougou.
Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu récemment une grande évolution au niveau d'Abidjan, où un certain dénommé Barry Batesti avait été arrêté, qui avait été donc celui qui conduisait la V8 aménagée à l'occasion pour transporter des armes et qui a fait donc la ronde dans la sous-région. Elle était venue ici à Ouagadougou, cette V8-là, transportant des armes, et c'est après son passage qui avait eu le 15 janvier. Et puis ensuite, c'est la même V8 qui est partie à Abidjan et qui a commencé donc le 13 mars à Bassam. Probablement, on peut penser que les informations qui ont été recueillies dans ce cadre-là ont pu faire évoluer substantiellement les enquêtes au niveau de Ouagadougou avec l'arrestation de ces 6 personnes-là, soupçonnées d'avoir contribué, facilité en tout cas, l'attaque du 15 janvier.
Le journaliste Newton Ahmed Barry a été joint à Ouagadougou.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront demain à Dakar, au Sénégal, pour leur sommet. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme tiennent une conférence de presse aujourd'hui à Dakar. Elles comptent faire un plaidoyer sur le bilan déplorable des droits humains en Gambie et contraindre ce pays à respecter les libertés individuelles. Nani Talani a joint à Dakar Steve Cockburn, représentant d'Amnesty International en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
La population gambienne a peur de s'exprimer librement. Ils ont peur d'être arrêtés, harcelés ou même torturés. Par exemple, il y avait les manifestations pacifiques qui étaient réprimées ces derniers 2 mois. Il y avait des opposants qui étaient battus par les forces de l'ordre. Il y a toujours 87 personnes qui restent en détention suite à ces manifestations. Et il y avait même une personne qui est morte en détention, qui s'appelait Solo Sandeng, qui était torturée par les forces de l'ordre. Et donc c'est un contexte très très difficile pour les partis de l'opposition en Gambie. C'est aussi très difficile pour les journalistes qui sont aussi ciblés avec les arrestations et les fermetures des organes de presse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le journalisme est le métier le plus dangereux en Gambie. Donc il y a beaucoup de journalistes qui fuient le pays. Au-delà de ça, il y a une société civile qui a été réprimée, qui a peur de s'exprimer. Il y avait par exemple une syndicaliste, le leader d'une association des transporteurs, Sheriff Tiba, qui était arrêté il y a quelques mois et qui est mort aussi en détention en février. Il y avait un imam en octobre qui avait présenté une pétition au palais présidentiel. Il a présenté cette pétition pacifiquement. Il a été arrêté et il reste en détention depuis 8 mois sans avoir accès à sa famille ou son avocat. Nous demandons d'abord aux autorités gambiennes de libérer les détenus politiques et de changer les lois répressives, mais aussi de demander au chef d'État de la CEDEAO de prendre les mesures plus efficaces pour s'assurer que la Gambie respectent les obligations des droits humains qu'ils ont signées dans les traités de la CEDEAO. On va leur demander de d'abord ouvrir une commission d'enquête sur les répressions des manifestations pacifiques, d'exiger que les décisions de la Cour de la CEDEAO soient respectées. Et si la Gambie ne répond pas positivement à ces demandes, nous voulons que la CEDEAO considère les sanctions possibles, y compris la suspension de la Gambie de la communauté régionale.
Si la CEDEAO ne prenait pas en considération vos doléances, quelles actions comptez-vous mener?
Nous allons continuer notre plaidoyer, c'est clair. Nous allons continuer d'exposer les violations et aussi exposer la différence entre les obligations dans les traités de la CEDEAO et la réalisation de ces obligations. Nous allons évidemment travailler avec les partenaires dans différents pays pour leur rappeler que si on veut une communauté régionale qui a des normes, qui respectent les droits humains et qui ont les institutions fortes, qui créent une communauté régionale avec un respect mutuel entre les pays, Il faut qu'il y ait des conséquences si un pays ne respecte pas ses obligations. Nous allons continuer à en parler d'ici aux élections en décembre, mais après ça aussi.
Steve Cockburn, représentant d'Amnesty en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Hissène Habré en procès pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien chef d'État du continent pour crime contre l'humanité dans un pays autre que celui de l'accusé. La procédure contre l'ex-président tchadien peut-elle servir de modèle pour juger d'autres ex-leaders africains pour violation présumée des droits de l'homme? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
La fièvre jaune est réapparue en Angola et en République démocratique du Congo depuis 6 mois. À ce jour, 298 personnes sont mortes de la fièvre jaune. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore déclaré l'épidémie comme une urgence de santé publique internationale. Mélisse Hegel a joint Axel Ronce de Médecins sans frontières.
On sait qu'il y a une grosse épidémie en Angola qui a eu à peu près 2500 cas, pas mal de décès. Au Congo, pour le moment, on en est à 50 cas confirmés et on a 3 cas autochtones, ce qui veut dire qu'il y a une transmission locale. En RDC, c'est plutôt Kinshasa qui est touché et le Congo central. Il n'y avait plus de cas de fièvre jaune dans ces pays-là depuis un certain temps. En Angola, le premier cas aurait réapparu au mois de décembre et l'épidémie déclarée en janvier-février. Au Congo, les premiers cas sont réapparus au mois de mars et c'était des cas d'abord importés d'Angola. C'est une maladie qui se transmet par les moustiques et donc il faut attendre que les moustiques soient infectés aussi localement pour continuer à diffuser la maladie. Et donc maintenant au Congo, il y a effectivement une confirmation aussi qu'il y a ce qu'on appelle des cas autochtones, donc des personnes qui ont attrapé la maladie sur place.
Est-ce que c'est inquiétant?
C'est inquiétant, oui. Enfin, c'est en tout cas à contrôler parce que tout le monde n'est pas immunisé contre la fièvre jaune. C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement et la létalité est assez importante. La grande peur que tout le monde a, c'est que cette maladie ne passe en Asie où la population est totalement immune et où ils ont les vecteurs, donc les moustiques qui pourraient transmettre la maladie. Donc il faut effectivement essayer de la garder là où elle est et de la contrôler dans les pays où elle est actuellement.
Qu'est-ce que vous faites concrètement à Médecins Sans Frontières pour justement contrôler et essayer d'éradiquer cette maladie?
La seule chose qu'on peut faire, donc, c'est de la prévention. Et ça se fait par 2 types d'activités. La vaccination, qui est la meilleure chose à faire, mais actuellement, il n'y a pas assez de vaccins pour vacciner tous ceux qu'on voudrait vacciner. Et la deuxième chose qu'on peut faire, qu'on appelle le contrôle des vecteurs, donc tuer les moustiques potentiellement infectés, là où on a des patients infectés. Tuer les moustiques et tuer les larves des moustiques, qu'on appelle la lutte antivectorielle. Il n'y a pas de traitement après avoir contracté la maladie. Il y a à peu près 20% des gens qui vont faire une maladie et parmi ceux-là, une 20% qui va faire une maladie grave et la moitié va décéder parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Si les patients ont un certain symptôme, on va essayer de les soulager de ce symptôme-là, mais on n'a rien pour arrêter la maladie.
Quels sont les symptômes?
On appelle ça fièvre jaune, comme toutes les autres maladies tropicales, j'ai envie de dire un peu comme la malaria, un peu comme la grippe, la fièvre, des douleurs articulaires. Et après quelques jours, on peut devenir jaune, donc développer des problèmes hépatiques. Et donc après, c'est une fièvre hémorragique et donc on meurt de ces problèmes hépatiques et hémorragiques.
Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite pour justement trouver un traitement?
La recherche qui est faite actuellement, c'est de voir s'il y aurait des possibilités d'utiliser le vaccin à des doses réduites, d'utiliser un vaccin pour 5 personnes plutôt que pour 1 personne, pour essayer de voir s'il y aurait un moyen d'économiser les doses disponibles.
Axel Ronce de Médecins Sans Frontières.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001-202-619-3140. Envoyez-nous vos SMS au 001-703-350-37-31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Muntou de RM Show. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.